remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue dans Onde Femme Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct de 17h à 23h. Vous aurez tout d'abord l'occasion de suivre l'émission Remue-ménage, animée par votre servante. Et puis, à 18h30, eh bien, vous retrouverez les nouvelles dans les informels de Radio Pleine Lune, puis le memento de Marjolaine, et de la musique et le quart d'heure lesbien. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, c'est le programme habituel. Et dans Remue-ménage, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Eh bien, comme annoncé la semaine passée, c'est notre rencontre mensuelle avec nos amis de la librairie L'Inédite, librairie des femmes à Genève. Et aujourd'hui, une version un peu particulière de notre émission, puisque nous ne vous présenterons pas de nouveaux livres, mais autre chose. Alors tout de suite, je vous mets dans l'ambiance de la musique qui va nous accompagner tout au long de cette discussion avec nos amis de L'Inédite. J'ai choisi de vous faire découvrir un disque que peut-être vous connaissez déjà, qui est le résultat de la collaboration entre une femme norvégienne, Agnès Buen-Garnosh, je ne suis pas sûre comment ça se prononce, et Jan Garbarek, qui est saxophoniste. Eh bien, en l'occurrence, ce disque est un enregistrement de chansons médiévales de Norvège, mais chansons qui ont été réunies dans certaines vallées de la Norvège en particulier, dans la partie sud et centrale de la Norvège, qui est la région natale d'Agnès Buen-Garnosh, et où elle vit encore d'ailleurs actuellement. C'est une région très riche au niveau culturel, entre autres par son architecture, ses costumes, son art décoratif et sa musique. Et tout au long des siècles, ont survécu des traditions, des musiques qui, depuis le 19e siècle, ont été assidûment collectées, transcrites et continuaient à être interprétées par des individus qui étaient passionnés de cette musique, et parmi eux, eh bien, en premier, la mère d'Agnès Buen, qui est Margrethe Muen. Alors, ces chansons, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Donc, c'est des chansons médiévales, ce sont des ballades, même des chansons sur lesquelles on peut danser. C'est souvent des poésies qui racontent des légendes qui évoquent la vie, la mort, la jalousie et qui ont été écrites pour être chantées. Elles sont médiévales dans le sens qu'elles ont un style et un langage que l'on peut attribuer à une telle période, mais comme elles ont été transmises oralement au travers des différents siècles, avec tous les changements et les différentes versions que cela a impliquées, eh bien, on les retrouve aujourd'hui. Et cette attraction, c'est surtout cela qui a attiré Agnès Buen-Garnosh. Ce n'est pas tellement leur ancienneté, mais le fait qu'elle révèle encore quelque chose aujourd'hui et qu'elle nous donne une force très importante. Alors, comme elle le dit elle-même, le plus important pour enregistrer un tel disque, ce n'est pas du tout... c'est que le contenu de ces chansons est très vivant et que les ballades médiévales nous racontent beaucoup de choses, nous expliquent beaucoup de choses à propos de l'expérience humaine et que dans ce sens-là, elles peuvent encore avoir un impact aujourd'hui.
Rosens volle vilje hitta kon, sade linde marmor och steinar, utan han täcka sylvan.
han rinner i sina silketömmar. Så sätt dig, fyr dig, låsa men i Sadelinde, marmor och steinar. Rosens fådan springer dig andra dit. Han rinner.
Alors avec Annette et Evelyne, nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter toutes les revues ou magazines qui évoquent les femmes, qui donnent la parole aux femmes, que vous pouvez trouver et publier mensuellement, hebdomadairement. Enfin, je crois qu'il y a toutes sortes de choses, non, Evelyne et Annette? Il y a beaucoup de variétés, pas tellement de revues suisses romandes, mais beaucoup,
non,
de revues françaises.
Revues suisses romandes. Mais il y a quand même à la librairie une revue que nous tenons depuis un certain temps et qui s'appelle « Vivre au présent ». Et je crois que c'est assez important de présenter un petit peu cette revue aujourd'hui, qui n'est pas vendue dans les kiosques, qui est vendue uniquement dans certains lieux comme des librairies spécialisées comme la nôtre ou éventuellement sur abonnement.
En général, les revues ont beaucoup de succès à la librairie, Evelyne ?
Non, on ne peut pas dire ça, franchement, malheureusement. Mais on tient quand même à les conserver. Et je dirais que le genre de revue que nous avons ne vieillit pas très vite. Donc on peut acheter, même après plusieurs mois de la parution de la revue, on peut la trouver intéressante, parce que très souvent, elles contiennent des dossiers qui ne sont pas fermés. Et donc, ils sont tout à fait encore valables. Peut-être que la seule revue qui vieillirait un petit peu plus, ce serait comme le journal Femmes Suisses, qui paraît chaque mois, puis qui évidemment suit quand même l'actualité. Bon, l'actualité change. Mais même dans celui-là, on trouve des dossiers qui sont intéressants encore plusieurs mois après la parution. Donc on les garde, et souvent quand on vient nous en acheter, on nous en achète des numéros qui ont des fois 2 ou 3 années d'âge déjà, et qui sont encore intéressants. Mais on ne peut pas dire que, à part quelques abonnés ou quelques régulières, disons, qui nous les font mettre de côté, ça arrive, oui, qu'on fasse mettre de côté un certain nombre de ces magazines. À part ces clientes-là, on en a peu vraiment qui achètent, elles viennent acheter des livres quand même, principalement. En tout cas, c'est mon opinion. Qu'est-ce que tu en penses,
oui,
Annette?
Oui, tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, c'est important de présenter ces revues, parce que je crois qu'on ignore parfois qu'on possède ces petits fascicules qui sont parfois une explication brève, mais tout à fait claire et intéressante d'un dossier, d'un sujet, et que ça peut intéresser la cliente. Alors il arrive quand même que si on lui précise un petit peu le thème des revues, on les vend quand même assez facilement.
Est-ce qu'on trouve un point commun entre ces revues qui est par exemple celui que il est produit, diffusé par des groupes de femmes? C'est-à-dire que ce n'est pas comme un journal habituel, une rédaction mixte, c'est souvent des rédactions de femmes par exemple. C'est très typiquement, pour parler des femmes, c'est les femmes qui écrivent, ça c'est résolument,
oui,
comme ça.
Alors si je reprends l'exemple de cette revue suisse romande qui s'appelle Vivre au présent, elle est donc bien sûr animée par des femmes uniquement, même si je pense qu'elle offrirait tout à fait ses colonnes à un éditorialiste ou quelqu'un de masculin, ça c'est sûr. Elle est, en tout cas, l'équipe d'animation est uniquement formée de femmes. Il faut peut-être préciser ici qu'il s'agit pour cette revue de femmes qui travaillent tout à fait bénévolement et qui donc font subsister cette revue grâce à leur enthousiasme, leurs idées et, disons, les réseaux d'amis ou de connaissances qu'elles se font.
Alors, on va effectivement, je crois, rentrer dans le vif du sujet. Vous allez entendre, chères auditrices et auditeurs, beaucoup de pages qui se tournent parce qu'on est entouré de ces nombreuses revues. On en a au moins 7 ou 8 à vous présenter. Et vous vous étonnerez pas d'entendre des tas de feuilles qui bougent. D'habitude, on fait semblant de ne pas faire de bruit quand on est à la radio. Là, au contraire, moi, comme on va feuilleter ces revues pour vous et avec vous, vous les entendrez très souvent. Alors, ouvrons peut-être justement la revue Vivre au présent, donc la seule revue suisse romande, précisons-le, qui soit consacrée aux femmes. Alors Annette, qu'est-ce que tu as retenu de cette revue-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle te semble particulièrement intéressante?
Alors, j'ai trouvé spécialement intéressant la recherche des thèmes traité par cette revue. Donc, le thème traité, il n'y a que ça dans la revue. Il n'y a pas d'article d'actualité. Il n'y a pas de référence à autre chose qu'au thème choisi. Et je vais peut-être citer trois des derniers thèmes et ensuite parler un peu plus du dernier. Un des thèmes dont nous avons donc encore des numéros disponibles à la librairie, c'est l'argent, mode d'emploi. Et il y a donc toujours dans ces pages des résumés de livres sur le sujet. Il y a des témoignages de femmes qui ont été confrontées à un problème lié à ce thème. Et il y a aussi des articles un peu plus fouillés, des analyses, toujours concernant ce thème. Donc je rappelle, un des thèmes traités, l'argent en mode d'emploi. Un autre qui est, je pense, très important dans le monde d'aujourd'hui est... Même si maintenant la littérature est importante à ce sujet, on n'en parle peut-être pas encore assez, c'est faire le deuil. Il y a donc un certain nombre de témoignages ou d'articles devant la mort d'un proche, par exemple. Il y en a un autre alors sur un tout à fait différent qui s'appelle « Eh bien, danser maintenant » et qui est effectivement un hommage aux danseuses, à cet art pas si connu que ça et ou à différents témoignages de femmes qui s'y sont consacrées. Alors, je trouve que ces trois sujets différents, bien différents les uns des autres, et qui font appel à beaucoup d'imagination. On n'y pense pas d'emblée, et je trouve que c'est quelque chose qui est très important à relever.
En général, le ton est à l'approfondissement, ou bien c'est parfois aussi certains de ces articles sont plus légers. Tu dis, par exemple, celui consacré aux femmes danseuses. Est-ce que c'est des portraits, c'est des récits, des témoignages, ou est-ce que tu relèves des formes différentes? Parce que, bon, on sait très bien que certaines de ces revues sont parfois dures à lire parce que c'est des longs articles, c'est approfondi. Dans Vivre au présent, en tout cas, ce que je vois sous les yeux, il y a des photos, il y a une mise en page particulière, il y a parfois une écriture particulière. Est-ce que ça ressort aussi dans l'écriture une différence?
Ah oui, absolument. Je crois que c'est une... Moi, j'ai le sentiment que c'est une revue extrêmement attractive parce qu'à la fois, elle nous donne quelques impressions assez fouillées, des articles bien fondés, et il y a aussi toujours une petite référence, enfin, pas mal de références à la vie personnelle de certaines femmes et, si possible aussi, rédigées d'une manière amusante, voire fictionnelle à l'occasion, voire poétique. Et dans ce sens-là, c'est une revue dans laquelle on ne s'ennuie absolument pas et qui est accessible absolument à n'importe quel lecteur ou lectrice.
Aurais-tu envie de nous en lire un petit bout, comme ça, au hasard d'une page, ou bien il y a quelque chose qui t'est paru... Bon, il y a beaucoup de petits dessins, de photos. Oh là là, c'est qui ces deux messieurs que nous voyons là?
Alors, ce sont le titre...
Elvis Presley, en tout cas.
L'aventure du rock. Le rock de la première heure, souvenir, souvenir. Et de nouveau, c'est quelqu'un qui évoque sa jeunesse et l'importance de la musique rock, la découverte pour une jeune fille de bonne famille de ce premier contact avec une musique qui n'était pas du tout celle avec laquelle elle avait été élevée. Donc on voit qu'il y a différents sujets traités tout à fait différemment. Il y a aussi toujours dans cette revue, et j'en parlerai peut-être plus à fond pour le dernier numéro dont je vais parler tout à l'heure, qui est donc consacré à la formation continue des adultes, il y a aussi un certain nombre de renseignements précis sur la Suisse romande. Des adresses, des numéros de téléphone, des personnes que l'on peut contacter concernant le sujet. Et dans ce sens-là, c'est intéressant, c'est un petit complément aux femmes suisses, mais différent.
Mais je suppose que ce qui est très différent, c'est que c'est pas du tout, ça ne se veut pas l'écho politique de quelque chose, ou bien comment, par rapport à Femmes Suisses justement, puisque c'est la seule autre référence d'une revue en Suisse romande que nous avons, comment tu situerais Vivre au présent?
Alors, Vivre au présent est effectivement un journal beaucoup plus neutre et qui ouvre ses colonnes à tout le monde. Mais je pense, je ne connais pas personnellement l'équipe des femmes qui anime Vivre au présent. Ce sont des femmes engagées dans un certain militantisme, mais disons global, de la cité en général, mais ça n'affleure pas particulièrement dans les articles. Simplement, elles se donnent, je crois, surtout comme règle de faire des articles qui ont une certaine tenue, une certaine actualité, et en même temps, qui soient formateurs pour les femmes qui les lisent.
J'aime bien le sous-titre. tu vois, des femmes s'interrogent. Vivre au présent, des femmes s'interrogent. Et qui donne aussi une indication sur ce à quoi tend la revue.
Alors, le dernier numéro que tu as sous les yeux, c'est « Apprendre à apprendre ».
D'ailleurs, le titre lui-même, la façon dont il est rédigé, suggère déjà quelque chose. Donc, c'est « Apprendre », point d'interrogation, trois points de suspension, et un petit peu plus bas, sous un dessin, trois points de suspension, « Apprendre », en deux mots, avec un point d'exclamation. Donc, à la fois, il y a la problématique de l'apprentissage, peut-être bien d'une nouvelle formation, et en même temps l'importance pour les femmes de ne pas attendre qu'on leur amène des perches ou qu'on leur propose quelque chose, mais qu'elles se mettent en chemin seules et décident de prendre quelque chose et en même temps sûrement d'apprendre. Et notamment dans ce numéro, il y a un certain nombre d'adresses et de contacts qu'on peut prendre dans toute la Suisse romande. Que ce soit des formations de type universitaire ou des cours professionnels ou semi-professionnels pour compléter une formation ou bien pour se rassurer personnellement avant d'entreprendre la démarche toujours difficile de chercher un emploi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la fameuse morosité ambiante, on ne peut plus ouvrir la radio sans entendre dire que banque, etc., licencie, et que tout le monde perd des emplois. Je crois que ce numéro est d'une grande actualité, justement, parce qu'il offre un certain nombre de pistes à quiconque s'intéresse à ce problème-là. Et il peut être donc tout à fait utile à pas mal de gens. Alors, si je feuillette, on voit aussi que c'est un journal qui a une importance dans la Suisse romande en général. Il n'est pas du tout genevois, je crois que c'est important d'en parler. Et il donne, entre autres, donc, concernant ce problème de la formation continue ou de nouvelle formation quand on a déjà un certain âge ou qu'on a arrêté de travailler pour un certain nombre de raisons, des adresses dans toutes les villes de Suisse romande, que ce soit Bienne, Fribourg, de Léman, Porrentruy, etc. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important que tout le monde puisse y avoir accès. Il y a aussi donc un résumé d'un livre intéressant qui s'appelle « Allez les filles », qui est donc un panorama un petit peu de la situation des jeunes filles face à l'emploi et face à la formation scolaire. Il y a aussi, donc, comme je le disais toujours, des témoignages. Il y a un texte assez amusant d'une personne qui en fait se dit « Je n'ai pas pris le train ». Et il y a toute une petite analyse de sa situation. Elle regarde le train passer. En fait, elle regrette de ne pas avoir pris le train. Enfin, pour vous expliquer que c'est très simple, c'est une image très, très pratique. Mais je trouve très intéressant d'avoir ouvert cette revue à une personne comme cela, qui peut-être n'a pas de possibilité de l'exprimer ailleurs dans un journal, parce qu'elle n'est pas une professionnelle de l'écriture, elle n'est pas une journaliste confirmée, mais elle a l'occasion dans ce journal de s'exprimer et d'avoir des contacts avec des gens.
Voilà, je crois que on va décider de passer dans les autres revues, puisque Vivre au présent, on l'a dit, est la seule revue suisse romande que nous avons à vous proposer. Peut-être tout en dernier, Evelyne, on vous parlera d'une revue qui essaye d'être suisse romande, suisse allemande, mais c'est un peu particulier, donc on la garde pour la fin. Alors, on va donc se mettre à feuilleter les revues qui sont essentiellement publiées en France, j'imagine, Evelyne.
Oui, on peut commencer par Lesbia Magazine.
Par exemple, pour prendre donc un magazine très ciblé, sur, en tout cas au niveau de son contenu, pas forcément au niveau de cette lectrice. Est-ce que Lesbien Magazine, à votre avis, n'est acheté que par les lesbiennes?
Oh, principalement, quand même, oui. Bien qu'on y trouve des articles qui intéresseraient des femmes qui ne sont pas lesbiennes dedans. Mais dans notre expérience, c'est surtout des femmes lesbiennes qui l'achètent. Donc, c'est un magazine qui est fait en France. C'est un mensuel. Il existe depuis une dizaine d'années. Actuellement, il vaut 7 francs le numéro. Et alors, on va voir ce qu'on peut y trouver dedans. Alors, si je, est-ce que je fais un feuilleté, je reprends ma petite liste. J'ai commencé par lire comme ça le l'avant-dernier numéro, c'est le numéro 109, et j'ai trouvé d'abord des petites informations du genre de celle-ci qui était quand même assez comment je dirais pas bon, qui dans le moment où je l'ai lu m'a étonnée. J'avais pas pensé au problème des... Je vais utiliser le vocabulaire qui est utilisé dans le journal hein, pour...
garder le temps.
Oui. Le problème d'une association de gays et de lesbiennes sourds et qui s'organise à échelle européenne. Et bon, par exemple, j'avais pas pensé à ces configurations où il y a carrément deux types de marginalité qui s'entrecroisent. Hein, la surdité plus qui est quand même une façon d'être ou qui marginalise, disons, ceux qui en souffrent. Par exemple, alors il y avait une petite information qui expliquait où les joindre et ceux qui veulent rejoindre cette association et puis qui expliquait comment ils sont en train de s'organiser à l'échelle européenne. D'autres informations sur des fêtes, des rencontres, des expositions, un festival féministe ou non d'ailleurs. Des annonces aussi pour des... apparemment le problème de l'âge pour les lesbiennes est un problème qui les préoccupe. Et il y a souvent des annonces ou des informations concernant des lesbiennes âgées qui cherchent des compagnes ou qui cherchent des groupes de réflexion pour parler de l'âge. Enfin, des adresses de cliniques, etc., tout ça. Dans ces petites infos, j'ai appris aussi qu'il y a, pour le moment, un seul pays où il existe des études homosexuelles universitaires qui s'appellent les Homo Studies. On connaissait les Women's Studies, maintenant on a les Homo Studies.
Et c'est aux États-Unis ?
C'est aux Pays-Bas, non ? Enfin, en Europe, peut-être que ça existe aux États-Unis, là, mais c'était le seul pays d'Europe qui était mentionné. Et puis des nouvelles du monde aussi, toujours des petites nouvelles, donc des nouvelles assez pas trop réjouissantes dans ce sens-là. Escadron de la mort anti-gay en Amérique du Sud, en Argentine entre autres, au Chili aussi, il me semble que j'avais lu. Des jugements anti-gay en Russie, en Inde, etc., ont l'air d'être des pays très répressifs.
Est-ce que le terme gay, Evelyne, est utilisé aussi bien pour les hommes que pour les femmes ou c'est plutôt lié au mouvement masculin ?
Non, au mouvement masculin. Les femmes, dans cette revue, pour les hommes, utilisent le terme gay ou homosexuel et pour elles-mêmes, le terme de lesbienne.
Donc, dans la revue Lesbia, on donne des infos, y compris sur le mouvement gay.
Oui, 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 oui. Et il y a d'ailleurs plusieurs activités où les deux mouvements cèdent dans des questions de... Enfin, des pétitions ou des fois des recherches de locaux, enfin, différents types d'aides où ils ont l'air de s'appuyer l'un sur l'autre. Pour certaines activités, pas pour toutes.
D'ailleurs, que je me rappelle très bien d'avoir vendu le magazine Lesbia à des hommes qui cherchaient ce type-là d'informations dans notre librairie. Donc, c'était aussi des clients potentiels de cette revue.
Puis alors, après ces petites annonces de rencontres, des articles plus de fond, qu'est-ce que tu as découvert ?
Oui, alors, en général, il y a une interview ou un portrait important. Presque toujours, il y a en tout cas une interview. Par exemple, toujours dans ce numéro 109, il y avait l'interview d'une Japonaise qui avait organisé, je crois que c'était la deuxième rencontre internationale des lesbiennes asiatiques, auxquelles n'étaient pas conviées d'ailleurs les lesbiennes blanches, disons. Hein ? Il y a une explication d'ailleurs pourquoi elles n'étaient pas, elles n'avaient pas été... Elles n'avaient pas été invitées. Et bon, dans cette interview, alors, elle parle des difficultés, en fait, qu'elle a eues pour l'organisation de cette rencontre des lesbiennes asiatiques, entre autres, pour obtenir des visas à des femmes en provenance de Thaïlande ou des Philippines ou de l'Inde. Et pour des raisons que j'aimerais lire ici. Hein, je reprends directement ce qu'a dit, c'était Mieko Watanabe. Voilà, l'une des organisatrices.
Elle est bonne en japonais. Hein.
Alors, la journaliste lui demande, y a-t-il eu des problèmes de visa? Alors, bien sûr, cela a même été un des problèmes majeurs. La plupart du temps, les jeunes femmes des Philippines, de Thaïlande, qui viennent au Japon, le font dans des réseaux de prostitution. Ce sont les Yakuza, la mafia japonaise, qui les font venir avec des propositions de salaire alléchantes pour travailler, soi-disant, comme hôtesse de bar. Ça me rappelle des histoires uriquoises, entre parenthèses. En fait, elles se retrouvent prises au piège de la prostitution et comme elles doivent envoyer de l'argent à leur famille, elles n'arrivent pas à s'en sortir. De ce fait, l'entrée des jeunes femmes asiatiques au Japon est très contrôlée et les visas sont très souvent refusés. Alors que cela est très facile pour n'importe quelle femme blanche occidentale d'entrer. Il nous a donc fallu inventer des stratagèmes. Avec la complicité de lesbiennes japonaises universitaires, nous avons établi de faux certificats d'invitation à des congrès ou des conférences pour formation de troisième cycle. Mais malgré tout, de nombreuses femmes n'ont pas pu entrer. Dans certains pays, en Inde par exemple, nous avons été confrontés à un autre problème qui est l'omniprésence de la famille. La plupart des femmes, même celles ayant des métiers de niveau universitaire, sont obligées d'habiter dans la maison de leurs parents, qui ne sont souvent pas au courant de ce qu'elles vivent. Il fallait donc être extrêmement vigilante quant au courrier. Et cela a beaucoup entravé aussi notre volonté d'être visible. Dans certains pays, la répression et les peurs sont vraiment très fortes. Ainsi, les Indiennes nous ont demandé que les dates exactes de la conférence ne soient pas mentionnées dans la presse japonaise. Comme elles avaient pris juste le nombre de jours de congé exact pour venir à Tokyo, elles avaient peur que si cela était repris dans la presse indienne de leurs parents ou leur patron à l'université ne fasse le rapprochement. Et quand j'ai fait un article pour le plus grand journal féministe japonais, je n'ai donc pas donné les dates exactes de la conférence. Alors voilà un type de problème auquel elles étaient confrontées et dont elles parlent dans cette interview. Dans un autre numéro... Il y a l'interview d'une femme qui travaille dans un groupe de pression, un lobby homosexuel, non, ou même un lobby lesbien, de nouveau pour faire la différence non, entre les deux sexes, d'un lobby lesbien sur le Parlement anglais, qui s'appelle Stonewall. Alors, elle se présente officiellement comme un groupe de pression qui travaillent les parlementaires et des membres du gouvernement, c'est-à-dire elles agissent directement sur des ministères, enfin sur des ministres, etc., des hauts fonctionnaires pour obtenir enfin, différents avantages ou changements dans la loi. Et par exemple, ils sont intervenus, ce groupe, qui est un groupe d'une vingtaine de personnes, mais... Qui est mixte, maintenant je me rappelle d'avoir lu. Ils sont 10 hommes et 10 femmes, donc 10 lesbiennes et 10 homosexuels. Les hommes sont très connus, c'est des personnalités de la vie publique anglaise, pas les femmes. Et ils sont intervenus dans des domaines comme l'âge légal pour les rapports homosexuels, pour améliorer la situation dans l'armée britannique, qui révoque les homosexuels dans les questions d'adoption, etc. C'est-à-dire, ils font vraiment... je ne peux pas évaluer d'après ce qui est dit dans l'interview si c'est vraiment un groupe de pression très important, mais en tout cas, il existe en Angleterre. Il y a aussi des portraits, par exemple le portrait d'une femme chanteuse, comédienne, musicienne, enfin percussionniste, Asar Santana, qui est, il me semble qu'elle est vénézuélienne d'origine aujourd'hui, elle est établie au Canada. Et voilà pour les articles, disons, un petit peu plus longs, je dirais, qui peuvent prendre trois pages. À part ça, on trouvera une chronique régulière d'une écrivaine, Hélène de Montferrand. On trouve des articles de critique littéraire. Et là, pas nécessairement sur des livres écrits par des lesbiennes ou à l'intention de lesbiennes. Par exemple, dans le dernier numéro, il y a la critique du dictionnaire des femmes célèbres qui vient de sortir, qui est donc un ouvrage sur les... sur les lesbiennes. Bon, j'ai vu beaucoup aussi d'articles courts ou moyens sur des problèmes d'identité. Ça, je pense que c'est vraiment une question qui revient souvent, les problèmes de ghetto et les problèmes d'identité. C'est évidemment pas résolu. Et il y a beaucoup de témoignages sur des questions de marginalisation, de répression, de peur, etc.